Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le sommaire. Calme relatif ce lundi à Minova et Bweremana dans le Nord Kivu. C'est après des affrontements à l'arme lourde entre d'un côté le M23 et de l'autre les FARDC et les groupes armés. Entre-temps, la situation humanitaire reste préoccupante dans cette région. Examen d'État édition 2024. Plus de 950 000 finalistes du secondaire passent les épreuves hors session en RDC et dans les 13 centres situés en dehors du pays. Le ministre de l'EPST a donné le go officiel de ces épreuves ce lundi à Kinshasa. Et puis, la journée internationale de l'asthme, c'était le jeudi 2 mai. Cette maladie caractérisée par des difficultés respiratoires est plus dangereuse, voire mortelle, si l'on y prend garde. Pour en parler, nous recevons Dr Baba Mutuza, médecin directeur de la clinique Dieu est grand à Beni. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Une accalmie relative est signalée ce lundi dans la région de Minova et Bweremana, dans le sud de Masisi, après des affrontements à l'arme lourde qui opposent les rebelles du M23 aux FARDC et les groupes armés. D'après nos sources dans la région, les Wazalendo, appuyés par les FARDC, ont réussi à repousser l'ennemi et à récupérer la colline de Bitonga. Les rebelles se seraient retirés vers d'autres collines surplombant Minova. Par ailleurs, la situation humanitaire reste préoccupante dans cette région qui a connu un afflux de déplacés en provenance de plusieurs localités de Masisi, alors que Minova n'a pas été épargnée par la menace des affrontements. Et à propos des bombardements du camp des déplacés de Lushagala à Goma, nous sommes toujours au Nord Kivu. La SADC condamne fermement cet acte qu'elle attribue aux rebelles du M23. Pour cela, elle annonce pour très bientôt des opérations de grande envergure, des opérations conjointes avec les FARDC pour neutraliser ces rebelles et ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des détails avec Chris Mukandmatante.
Dans un communiqué rendu public le dimanche 5 mai 2024, la communauté de développement de l'Afrique australe dit condamner fermement les horribles attaques perpétrées par les rebelles du M23 contre les personnes déplacées à Mugunga, au Nord Kivu, le 3 mai 2024, tout en désignant ouvertement le M23 comme auteur et responsable du drame du camp de Lushagala. La SADC donne un bilan de 16 morts avec une trentaine de blessés, tous des civils. Il s'agit d'un ciblage délibéré d'innocents civils en violation flagrante du droit international humanitaire, des lois relatives aux droits de l'homme et de ses principes, ajoute le communiqué. En conséquence, des opérations militaires sont envisagées en vue de neutraliser ces rebelles du M23. Elles se feront en coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo et auront d'autre part comme objectif ramener la paix et la sécurité en créant un environnement sécurisé et en protégeant les civils et leurs propriétés sous des menaces ou des attaques imminentes. Autre objectif de ces opérations conjointes, ouvrir les routes d'approvisionnement et veiller à ce que les civils soient à l'abri de toute intimidation, déplacement et meurtre, afin que les communautés puissent mener leur vie quotidienne sans aucune interférence ni menace, conclut le communiqué de la SADC. Goma, Chris Mukand, Radio Okapi.
Autre réaction à ce bombardement, c'est celle de l'Union africaine. Elle condamne cet acte meurtrier contre des camps des déplacés au lac Vert et Mugunga dans la périphérie de Goma. Bombardement ayant entraîné des morts et des blessés graves dont des femmes et des enfants. Dans un communiqué publié hier, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple congolais. Il déplore profondément l'escalade continue de la violence sous toutes ses formes dans l'est de l'air. Ce haut cadre rappelle que de telles violences vont à l'encontre de l'esprit et la lettre des accords de Luanda du 21 mars 2024, appelant au cessez-le-feu complet et immédiat. Enfin, Moussa Faki Mahamat réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi dans la quête des voies et moyens d'une paix durable dans l'est de l'RDC ainsi que dans toute la région des Grands Lacs. Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 950 000 finalistes du secondaire ont débuté ce lundi les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024, cela en RDC comme dans les 13 centres situés en dehors du pays. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui a donné ce lundi le go officiel de ces épreuves à l'Institut Lumumba de l'IMETE, ici à Kinshasa. Plusieurs sujets à développer au choix ont été proposés aux élèves, certains que Murphy Fika a rencontrés à leur sortie des salles d'examen dans ce centre, nous disent ici comment ils l'ont passé et quels sujets ils ont choisi. Suivez.
J'ai bien passé mon examen, mais au niveau de la salle, l'environnement n'était pas bon.
Il n'était pas vraiment propre
et puis il n'était pas confortable. Les sujets étaient un voyageur, n'a ni un plan, ni une destination. C'était à discuter. Et puis j'ai discuté. Le pensée de mes élèves était fausse parce qu'un bon voyageur doit avoir le plan et une très bonne destination là où il va. J'ai l'assurance que j'ai bien travaillé, j'ai obtenu aussi de bons pourcentages.
L'organisation, c'était pas vraiment bien. L'endroit était un peu stressant. Et à part ça, l'examen s'est bien passé. Moi, j'ai développé le sujet. Il faut voyager pour apprendre. Bien sûr, il faut voyager parce que quand nous voyageons, nous voyons plusieurs choses. Et chaque pays a sa manière de vivre.
Mon sujet était le plus facile parce qu'il était maintenant si j'ai passé les bénés. J'ai choisi le sujet le plus simple et j'ai développé aussi vite. Je suis sorti maintenant, je suis au moins à l'aise et j'attends le reste.
Du côté de l'Ituri, tous les centres de passation des épreuves de l'examen d'État sont opérationnels dans l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1. Selon l'inspecteur principal provincial, 3 centres affectés par les conflits armés dans les territoires de Djougou et Irumu ont été délocalisés à Bunia. Plus de 15 800 élèves finalistes du secondaire, dont 8 000 filles, sont attendus. Martial Kiza pour les détails.
Au total, 49 centres de passation des épreuves préliminaires des examens d'État, dont un à Kampala en Ouganda, sont opérationnels dans l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1. Selon Ferdinand Bofenda, l'inspecteur principal provincial, des centaines de finalistes des centres d'Irumu bar 01, Irumu 2 bar 02 et de Djougou Denizi ont effectué le déplacement à Bunia pour participer à ces épreuves comme les autres. C'est là suite à l'activisme des groupes armés dans les territoires de Djougou-Ituri. Il rassure que des dispositions sécuritaires ont été prises par les autorités pour que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions dans plusieurs entités éloignées dans les grands centres commerciaux.
Nous les demandons du calme, d'être serein, de ne pas paniquer parce que la sécurité est assurée par son excellence, monsieur le gouverneur militaire.
Le vice-gouverneur de province qui a procédé au lancement de ces examens encourage les candidats à braver la peur pour réussir à ces épreuves. Cette première journée est consacré à la dissertation et rédaction. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et dans la province éducationnelle Kasaï Oriental 1, près de 19 000 élèves finalistes sont inscrits à ces épreuves. Le coup d'envoi a été lancé ce lundi dans l'un des sites de l'examen d'État situé au collège Saint-Pierre d'Ibouadia-Bouakane par le gouverneur de province intérimaire. L'autorité provinciale et les autorités scolaires ont tous prodigué des conseils aux élèves finalistes. Esther Ndalafina, reportage.
La province éducationnelle Kasaï Oriental 1 a inscrit 19 000 élèves finalistes. D'après l'inspecteur principal provincial, ces élèves finalistes sont disséminés dans 52 centres. Il a indiqué que cette année, le nombre d'élèves ainsi que celui des centres de passation de ces épreuves ont été revus à la baisse. Les motifs de cette baisse n'ont pas été évoqués à cette cérémonie. Le gouverneur de province intérimaire qui a lancé officiellement cette épreuve de dissertation a prodigué des conseils aux élèves finalistes.
Parfaite concentration et abnégation. Je vous exhorte à faire preuve d'une grande maîtrise dans les salles d'examen. Faites des efforts personnels, ayez confiance en vous-même et ne recourez jamais au phénomène Bintou, ni à une autre sorte de fraude ni tricherie.
Aux parents, Ananias Mouzadi leur a demandé d'être attentifs.
Je voudrais vous féliciter pour vos multiples sacrifices endurés pour soutenir les études de vos enfants. Faites en sorte qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Puis, assurez-vous de l'état de sobriété duquel ils devraient s'amener au centre des examens d'État.
Signalons qu'après l'épreuve de dissertation, les élèves finalistes seront soumis ce mardi à l'examen oral de français, puis suivra la pratique professionnelle. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Autre nouvelle, de nombreux villages du territoire de Kasenga dans le Haut-Katanga ont été victimes des inondations. Plusieurs champs ont été aussi touchés. Conséquence, la société civile locale redoute la famine car la plupart des ménages vivent de l'agriculture. Pour cela, elle demande l'intervention de l'État ou des humanitaires en faveur des sinistrés. D'autres détails avec Banzami Djibou, responsable de la société civile de Kachobwe. Il a été joint par Jean Gandou.
Nous avons connu des inondations dans tout le territoire de Kasenga. Nous avons presque 322 maisons écroulées. Les gens sont accueillis dans des familles. Avec cet état-là, il y a problème de nourriture puisque les champs sont inondés. Dans les mois à venir, nous allons assister à une pénurie de la nourriture. Même l'économie sera compliquée. Aussi, nous demandons aux gens de bonne foi prendre en charge les victimes de champs et de maisons écroulées. Et aussi, nous demandons aux humanitaires de venir en aide à cette population. Même le pont qui relie route Kilwa au niveau du village Lupembe s'est cassé et aussi le village Mukobe. Ce sont des villages-là aussi qui nous aidaient. Il y a d'autres produits qui venaient ailleurs pour entrer à Kachobo ou bien dans nos coins. Maintenant, c'est coupé, il n'y a pas de communication. C'est une grande souffrance.
L'actualité, c'est aussi à Kinshasa où des stations-service font face à une difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers depuis ce week-end. Conséquence, les automobilistes doivent s'armer de patience avant d'être servis en essence ou gasoil. Les quelques stations-service opérationnelles rationalisent leur stock. À l'origine de cette situation, la sempiternelle question de la dette pétrolière. Le gouvernement doit honorer ses engagements pour compenser le manque à gagner des opérateurs dans la composition de la structure des prix du carburant. C'est comme l'explique ici Emery Mbachibope, président de l'association des pétroliers privés de la RDC. Il est au micro de Cynthia Bachizi.
Le problème, c'est comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Les consommateurs, tous les usagers qui ont des véhicules qui utilisent le produit blanc, le produit pétrolier, ils savent qu'il y a une partie de leur prix qui est toujours prise en charge par l'État congolais. Donc, ce qu'on appelle une subvention. Ça veut dire qu'il y a une partie du prix de ces produits qu'on achète dans les stations-service qui est prise en charge par l'État. Nous avons suffisamment d'argent qui devait être payé pour maintenir l'équilibre, comme j'avais dit. Si on paye, le circuit sera normal. Il ne faut pas courir derrière les événements. Par exemple, dernièrement, Seb Congo, face à la difficulté de la logistique, a dit non, je ne sais plus prendre en charge ni les heures supplémentaires, ni les livraisons nocturnes. On a payé une partie à Seb en tant que logisticien. On doit payer à tout le monde pour que le circuit redevienne normal. Le problème des stocks, c'est une conséquence logique de non-paiement, de perte et manque à gagner, parce que ces produits que nous vendons, ce sont les produits appartenant aux fournisseurs. Si vous ne payez pas ces fournisseurs, comment ils peuvent vous faire confiance?
Nous n'avons pas encore la réaction des autorités compétentes à ce sujet. Et puis, le Lualaba est une province minière, mais il n'est pas dit que tout le monde doit aller dans les mines pour vivre. Ces propos sont de Georgette Ngalula, la soixantaine révolue, vendeuse au marché de Kasulu à Kolwezi. D'après elle, pour réduire la pauvreté et le chômage, les habitants du Lualaba devraient diversifier les activités commerciales et non pas se concentrer uniquement sur les mines. Grâce à Mzati, signe ce reportage.
Nous sommes au marché. Si tout le monde allait dans les mines, qui devrait vendre? Ou bien si on venait acheter, qui devrait vendre?
En faisant cette interpellation, Madame Georgette, ancienne fonctionnaire de l'État, affirme que grâce à son commerce, elle nourrit sa famille et scolarise ses enfants.
Puisque je n'ai pas d'emploi, je me débrouille quand même pour avoir mon pain quotidien.
Alors que dans l'administration, elle n'arrivait pas à nouer les deux bouts du mois, témoigne-t-elle.
Quand j'étais encore jeune, je travaillais. J'étais un agent de bureau. Je travaillais beaucoup. Et maintenant, j'ai choisi à me suffire par moi-même.
Cependant, son travail n'est pas sans difficulté, d'où sa doléance.
Les gens de mairie qui ne comprennent un peu, qui réduisent un peu les artolas de Salongo, 2000 c'est trop, qui nous apaisent un peu, ils mettent 1000 francs. Vous voyez, mes choses sont trop peu. Nous sommes des détaillants et des grossistes, mais moi je suis détaillant. Quand je dépense 2000 mercredi, 2000 samedi, dans un mois c'est combien? Je ne peux pas vraiment tenir.
Georgette Ngalula encourage ses compatriotes et se propose comme modèle pour l'autonomisation des femmes notamment.
À Kolwezi, il y a tout. Tout le travail assure l'indépendance. Puisque si tu ne travailles pas, tu ne peux même pas trouver quelque chose à manger. C'est en travaillant qu'on gagne la vie.
Des retours de Kolwezi, grâce à Mzati Masanzi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le programme alimentaire mondial PAM alerte sur l'imminence de la famine au Darfour, au Soudan. Au cours des 6 dernières semaines, le PAM a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à plus de 300 000 personnes dans le nord, l'ouest et le centre du Darfour en utilisant les postes frontières de Tiné et Adré et une route transversale depuis Port-Soudan. Tous ces accès sont désormais bloqués, alerte la porte-parole du programme alimentaire mondial PAM au Soudan.
L'invité.
Le monde a célébré le 2 mai la journée internationale de l'asthme. Cette maladie caractérisée par des difficultés respiratoires est plus dangereuse, voire mortelle, si le patient ne prend pas certaines précautions. Quelles sont ces précautions et comment gérer les crises d'asthme pour une femme enceinte, notamment? Docteur Baba Mutuza, médecin directeur de la clinique Dieu est grand de Beni, explique dans cet entretien avec Sadiq Aboubakar.
Docteur Baba Mutuza, bonjour.
Bonjour.
Le monde a célébré ce 2 mai la journée mondiale de l'asthme. Qu'est-ce qu'on appelle l'asthme?
L'asthme, c'est une maladie qui concerne principalement les voies respiratoires et cela va entraîner des difficultés respiratoires chez les patients.
En termes un peu plus simples, comment se manifeste cette maladie?
Ce qui se passe généralement, c'est que les patients, quand ils respirent à distance, c'est comme s'ils émettaient du bruit, comme des sifflements. Et à côté de ça, ils vous disent, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire entrer l'air. Et c'est là qui va entraîner des difficultés à respirer.
Est-ce que c'est une maladie grave, docteur?
Oui, parce que l'asthme va se présenter sous forme d'une maladie chronique, mais sous forme de crise. Et là, il faut faire la différence entre l'asthme, quand on le présente comme maladie, et comme crise. Quand on le présente comme maladie, c'est-à-dire on en a et on peut vivre assez aisément, sans beaucoup de difficultés. C'est-à-dire là, à ce moment-là, on a maîtrisé la maladie, on sait les signes qui annoncent la crise et on sait comment y faire face. Mon épouse est asthmatique, c'est pourquoi j'en parle comme ça. Lorsqu'on vit la crise d'asthme, la crise peut aller à une crise légère jusqu'à une crise très grave qui peut se solder par un coma, voire même un décès.
Et comment on contracte cette maladie? Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette maladie?
On a remarqué que chez les patients asthmatiques, il y a une forte production d'immunoglobuline E. C'est-à-dire que certaines personnes naissent avec cette hypersensibilité de leur immunoglobuline E. Et donc, il y a toujours aussi une composante assez héréditaire.
Donc, il y a une certaine prédisposition.
Exactement.
Depuis la naissance.
Oui, oui, oui. Qui sera exacerbée maintenant par les facteurs environnementaux qui peuvent venir provoquer ou accentuer la maladie et même la crise.
Donc, une certaine allergie.
Exactement. Même les moisissures, les peintures, tous ces facteurs-là peuvent entraîner des crises d'asthme. Et c'est un aspect important de dire aux parents. Très souvent, il y a les signes, c'est-à-dire que l'enfant, par exemple, lorsqu'il se lave de l'eau froide, vous voyez quand l'eau passe sur son visage, au niveau du nez, il n'arrive pas à respirer du tout. Vous voyez, ou lorsqu'il a pris des histoires froides, il va tousser toute la nuit. C'est là, vous dites tout simplement que l'enfant, effectivement, est prédisposé, s'il n'est pas bien soigné, à présenter l'asthme à l'âge adulte.
Alors, docteur, pour terminer, qu'est faut-il faire pour prévenir l'asthme? Bien que vous aviez dit, il y a une certaine prédisposition pour certaines personnes déjà à contracter cette maladie. Qu'est faut-il faire pour les prévenir?
La meilleure façon, comme nous l'avons dit, c'est avoir une hygiène de vie correcte. On évite les moisissures, y compris pendant la grossesse. Et ça, c'est très important.
Moisissures.
Vous voyez, quand il y a la peinture au niveau de mire, et puis il plaît des champignons comme des taches qui se forment là.
Oui.
Ça, ce sont des facteurs qui sont très dangereux. Il faut éviter des préférences, de s'approcher de plus des poils des chiens ou les poils des chats et autre chose. Vous voyez, il faut prendre aussi beaucoup d'eau. Mais comme on a encore dit au départ, pour les enfants, les parents doivent être attentifs. C'est-à-dire, pendant qu'ils se lavent, il faut que les parents surveillent comment est-ce que l'enfant réagit à l'eau froide ou à l'eau chaude. Est-ce qu'il tousse souvent après avoir pris des histoires froides ou comment? Ce sont les facteurs qui peuvent aider à déceler tôt et donc mettre un traitement en marche. Vous voyez? Maintenant, comme on a dit, comme l'atopie est héréditaire, ça devient un peu compliqué. On peut jouer que sur les facteurs environnementaux. Maintenant, pour ceux qui sont déjà asthmatiques,
comment vivre avec?
C'est ce que j'ai dit maintenant. Ils doivent d'abord savoir les facteurs qui entraînent les crises.
Par exemple, le froid.
Par exemple, le froid, une alimentation particulière, par exemple, les sauterelles ou autres, du miel, parfois les haricots. À côté de ça, ils doivent savoir aussi des signes. Comme pour l'épilepsie, l'asthmatique sait que là, je vais faire ma crise. Et donc, il peut préparer déjà sa famille pour savoir comment ça se passe. Maintenant, ici, nous parlons de la gestion de la crise. Et ça, c'est important. Lorsque les patients commencent à faire sa crise, l'élément clé, c'est lui permettre d'accéder à l'air ou à l'oxygène. Dans ces cas, il faut d'abord ouvrir totalement les fenêtres. De deux, il faudra à tout prix que la tour soit nue et après, il faut les pencher vers l'avant pour permettre à ce que l'air qui est piégé puisse sortir. Maintenant, selon les degrés de la crise, on pourra vite l'acheminer à l'hôpital pour les soins urgents ou essayer de voir si c'est modéré ou c'est très léger. Avec ces mesures-là, ça peut déjà marcher. Vous voyez, ça c'est par rapport à la crise.
Et en vous entendant parler, on dirait que l'asthme n'est pas une maladie curable.
Non. elle n'est pas curable. Il faut le dire et le souligner encore ici. On peut seulement espacer les crises et permettre aux patients d'avoir une vie assez stable. C'est ici aussi l'occasion de parler, par exemple, des femmes grosses asthmatiques. Vous voyez, il arrive très souvent que pendant la grossesse, la femme va présenter de plus en plus de crises. C'est pourquoi il est important pour des couples où la femme est asthmatique, avant de vouloir concevoir, ils doivent consulter leur médecin pour avoir un planning et savoir comment est-ce qu'ils seront suivis durant la grossesse. Mais il arrive encore que ça soit, et ça c'est pire, il arrive que la femme, pendant qu'elle est en plein travail, représente une crise, et ça arrive très souvent, des crises d'asthme sévères. Là, si l'équipe n'est pas préparée, on peut perdre et la mère, et là ça devient encore plus compliqué.
Docteur Baba Mutuza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité est médecin directeur de la clinique Dieu est grand à Beni. Il répondait aux questions de Sadiki Aboubakar. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Tchikotati Vueta sous la supervision de Martin Sebou Djangwe, Alain Goy à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.